Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 19h30 en universel du lundi 25 décembre 2017. Joyeux Noël à tous. Au sommaire, les enfants victimes des conflits au Moyen-Orient et en Afrique au centre du message du pape à l'occasion de Noël. Au Noël sanglant dans l'est de la RDC, 9 militaires ont été tués dans le sud Kivu dans 2 embuscades. Retour d'Amadou Toumani Touré au Mali, l'ancien président malien est arrivé dans sa ville natale de Mopti.
Il faut également, après Bamako, que je vienne à Mopti. Mopti du sud de Papa. Aller visiter le tombe de mes parents. Ma maman, décédée après moi. Saluer les grandes familles. Et ensuite les faire savoir que je suis rentré.
Vaste remaniement ministériel au Tchad. Le nombre de portefeuilles passe de 37 à 24. Plusieurs poids lourds du régime sont mis à la porte. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, Noël a été marqué par cette nouvelle tragédie touchant l'armée. 9 soldats ont été tués dans 2 embuscades et l'armée pointe du doigt les miliciens Maïmaï. Les détails avec Raïssa Gironda.
Selon des sources militaires, les 2 embuscades ont eu lieu dans la zone opérationnelle de Baraka, dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Selon l'AFP, les forces armées de la RDC accusent les miliciens Maïmaï d'être responsables de ces embuscades, bien que ces derniers aient perdu d'importants matériels. Les Maïmaï sont des groupes armés actifs qui, durant la Deuxième Guerre du Congo, ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Certains n'ont jamais été désarmés. Depuis le début de l'année, des miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée congolaise dans le sud Kivu et le nord Kivu.
Toujours en République démocratique du Congo, une résidence du président Joseph Kabila a été incendiée par des présumés miliciens la nuit dernière, causant la mort d'un policier dans l'est du pays. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, les assaillants, qui seraient des Maïmaï, ont tout pillé avant de mettre le feu à la maison et à quelques véhicules qui s'y trouvaient. Remaniement ministériel d'envergure au Tchad, le président Idriss Déby Itno a réduit son cabinet. Bagassi Koura, c'est pour, nous dit-on, des raisons d'austérité.
Un décret présidentiel lu à la télévision dimanche soir réduit le nombre de ministres de 37 à 24. La nouvelle équipe gouvernementale est marquée par le départ de 8 ministres au total, tandis que 8 nouvelles personnalités y font leur entrée. Autre fait notoire, le ministre des Affaires étrangères Hissène Brahim Taha et de la Sécurité publique Ahmad Bachir cèdent leur portefeuille. L'Assemblée nationale tchadienne doit voter entre le 28 et le 30 décembre le budget pour l'année 2018 alors que le Tchad traverse une grave crise économique. Justement, aux finances, Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre par intérim depuis la démission de Christian Georges Diguimbay le mois dernier, est confirmé à ce poste. Cette nomination intervient alors que le gouvernement tchadien négocie depuis plusieurs mois avec l'entreprise suisse Glencore au sujet des prêts gagés sur le pétrole tchadien et concernant une restructuration de dettes s'élevant à 1 milliard de dollars.
En Guinée-Bissau, 6 militaires ont été arrêtés pour complot visant à tuer le chef d'état-major de l'armée, le général Biagui Natam. Après ces arrestations qui ont eu lieu les 14 et 15 décembre, les militaires ont été incarcérés dans une prison de la base aérienne. Mais l'information a été rendue publique aujourd'hui. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est arrivé à Mopti ce matin, sa ville natale donc, dans le centre du pays, à bord d'un avion militaire. Il a été accueilli par le maire de la commune urbaine de Mopti, des notables de la ville et une foule nombreuse. Dès son arrivée, l'ancien président a visité les tombes de ses parents derrière le fleuve. Selon la population, ce retour d'ATT est un signe de réconciliation nationale. On écoute Amadou Toumani Touré au micro de notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Après 5 ans et 8 mois d'absence, hier, j'ai foulé le sol de notre pays, à Bamako, où vraiment les populations, le président de la République lui-même et l'ensemble des autorités, premier ministre, gouvernement compris, des parlementaires et tous, et surtout la population de Bamako, m'ont réservé vraiment un accueil qui m'a fait tout oublier.
Mais au-delà de ça, il faut également, après Bamako, que je vienne à Mopti. Mopti du Sud, papa. Aller visiter le tombe de mes parents. Ma maman, décédée après moi. Saluer les grandes familles. Et ensuite, les faire savoir que je suis rentré. J'ai déjà mon champ ici que je cultive. Je ne peux pas faire autrement. Je suis parti là-bas pour le service. Si le service est terminé, je suis à la retraite. Je rentre chez moi.
Le signe de réconciliation nationale.
Je le souhaite pour notre pays. Nous n'avons pas le choix et c'est une obligation morale, sociale et politique. Et je souhaite de tout mon cœur que notre pays se retrouve.
Quelle est l'alternative pour la paix selon vous?
Que les cœurs s'ouvrent et que chacun joue franc jeu. C'est tout. Ça, c'est l'essence pour la paix.
C'était l'ancien président malien Amadou Toumani Touré à Mopti. Second tour de la présidentielle au Libéria demain. Il opposera le vice-président Joseph Boakai à l'ex-star du football et sénateur George Weah, arrivé en deuxième position lors du premier tour de la présidentielle le 10 octobre avec plus de 28% des voix contre 38% pour George Weah. Le vice-président sortant a contesté pendant des semaines ce résultat devant la commission électorale, puis devant la Cour suprême, arguant que le scrutin avait été entaché de fraude et d'irrégularité. Prévu initialement le 7 novembre, le second tour a été repoussé au 26 décembre après le rejet de ses recours. En Mauritanie, le plus grand parti d'opposition a un nouveau chef à l'issue de son troisième congrès. La formation politique islamiste Tewassoul a élu à sa présidence un modéré, Mohamed Mahmoud Ould Seydi. Il remplace Jemil Ould Mansour, arrivé en fin de mandat. Le Tewassoul est actuellement le plus grand parti d'opposition avec 16 députés à l'Assemblée nationale. Le parti contrôle plusieurs communes dont Arafat, la plus importante de Nouakchott, la capitale. Au Maroc, des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées ce lundi pour la deuxième journée consécutive à Djerada, dans le nord-est du pays. Ils entendaient dénoncer la marginalisation de cette ancienne ville minière. Ces manifestations se tiennent après la mort de deux personnes dans un puits clandestin d'extraction de charbon. Les Émirats arabes unis expliquent la décision de sa compagnie aérienne Emirates d'interdire les Tunisiennes de voyager à bord de ses avions. Selon le gouvernement émirati, cette décision, qui a créé une vive controverse en Tunisie, est due à la crainte d'un attentat pouvant être commis par des femmes titulaires d'un passeport tunisien. Hier, la Tunisie a annoncé avoir suspendu les liaisons quotidiennes de la compagnie aérienne Emirates en raison de la polémique autour du droit des femmes tunisiennes à embarquer sur des vols à destination des Émirats.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un message de Noël sur fond d'imploration. Le pape François a appelé aujourd'hui à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Il a aussi passé en revue de nombreux conflits dans le monde. Yacouba Ouedraogo.
Avant la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, autrement dit, le pape François a dit espérer une reprise du dialogue pour une coexistence pacifique de deux États, israéliens et palestiniens. Après la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, le souverain pontife avait déjà appelé au respect du statu quo. Il a aussi évoqué les cas des enfants syriens marqués par la guerre, de l'Irak divisé par les hostilités, du Yémen où la faim et les maladies sévissent. Le pape a également cité le Soudan du Sud, la Somalie, le Burundi, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Nigeria. François a demandé à la communauté internationale de protéger la minorité musulmane apatride des Rohingyas. Il a déploré l'enfance volée, dit-il, de ceux qui sont obligés de travailler dès leur plus jeune âge ou qui sont enrôlés comme soldats par des mercenaires sans scrupules. Le pape est aussi revenu sur les migrants, un thème qu'il avait décliné lors de son homélie de la veillée de Noël.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem comme les États-Unis l'ont fait. Benjamin Netanyahou a prédit que d'autres pays prendraient la même décision. En Turquie, le procès de collaborateurs d'un journal d'opposition a repris dans une ambiance tendue à Istanbul. Au total, 17 dirigeants, journalistes et autres employés actuels ou passés du journal sont jugés pour activités terroristes. En Russie, le principal opposant Alexei Navalny appelle ses partisans à boycotter l'élection présidentielle du 18 mars prochain après le rejet de sa candidature par la commission électorale. M. Navalny a d'ores et déjà indiqué qu'il n'allait pas reconnaître les résultats de ces élections. La commission électorale russe a voté à l'unanimité lors d'une réunion publique pour refuser le dossier présenté par le juriste de 41 ans, invoquant une condamnation judiciaire. Aux Philippines, 37 corps ont été retrouvés dans le centre commercial ravagé par un incendie samedi à Davao, dans le sud du pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Eric Manerakiza.
L'Angola est affectée par une pénurie de carburant. Depuis plus d'une semaine, la plupart des stations-service de la capitale Luanda sont assiégées par de longues files d'automobilistes en quête d'essence. Les stations-service de la plupart des autres provinces du pays sont elles aussi au régime sec. Les causes de cette pénurie restent encore mal éclaircies. Certains l'attribuent déjà à une fronde politique contre le nouveau président João Lourenço. Au Zimbabwe, un fermier blanc est revenu sur ses terres samedi et a exprimé sa reconnaissance au nouveau gouvernement d'Emmerson Mnangagwa et des producteurs de tabac et de maïs. Il avait été expulsé de sa propriété de l'Est dans la région de Makoni en juin dernier sous les menaces des armes. Il avait perdu des objets personnels, notamment des photographies de famille et de grands vins des ex-colonies portugaises d'Afrique transmis de père en fils depuis des générations. Enfin, le secteur textile sud-africain peine à redémarrer malgré le soutien des pouvoirs publics. Il est étranglé par la concurrence à bas prix venue surtout de Chine. La taxe sur les importations de matières premières constitue un frein au redémarrage du secteur. Il a perdu plus de 160 000 emplois en 15 ans, les deux tiers de sa main-d'œuvre totale. Beaucoup reste à faire pour restaurer la compétitivité et recréer une partie de ces emplois perdus. Le secteur textile contribue pour plus de 3% au produit intérieur brut sud-africain.
Rebonsoir Yacouba Ouedraogo.
Rebonsoir Abdourahman.
Alors on démarre cette page des sports avec Mbappé, Asensio, Semedo qui sont dans le 11 des révélations UEFA de l'année 2017.
Tout à fait Abdourahman, une équipe surprenante avec un seul milieu de terrain, Harry Wicks de Tottenham. Il est entouré d'une armada offensive avec entre autres Marco Asensio du Real Madrid, Talisca du Besiktas, Timo Werner de Leipzig, Oberlin de Bâle et l'inévitable Kylian Mbappé passé de Monaco au PSG.
Manchester City veut savourer les fêtes de fin d'année en s'approchant d'un record européen.
Et oui, Abdourahman, avec une série en cours de 17 victoires de rang en Premier League, les hommes de Joseph Guardiola sont proches de marquer davantage les esprits. En ligne de mire, le record du succès consécutif dans l'un des 5 grands championnats européens détenu par le Bayern Munich. 19 victoires, Abdourahman, est réalisé sous les mêmes ordres du Pep Guardiola.
Le Boxing Day débute demain et Manchester United et Chelsea sont attendus.
Mais pour tout à fait, Abdourahman, le Boxing Day qui débute demain et Manchester United devra au moins assurer le service minimum à domicile contre Burnley après son match nul fâché 2-2 face à Leicester. Du côté de Chelsea, Alvaro Morata est attendu comme le Messi suspendu contre Everton. Les Blues ont récupéré leur attaquant et espèrent retrouver du poids offensivement pour se défaire de Brighton.
Galatasaray tend la main à Eboué, ruiné et poursuivi par les huissiers.
Son histoire a ému le monde entier. Dans une interview accordée au Daily Mirror, l'ex-international ivoirien racontait sa descente aux enfers. Un litige avec son agent et un divorce lui ont fait perdre toute sa fortune, accumulée en 15 ans de carrière, dont 7 à Arsenal et 4 à Galatasaray, d'après Football Arena, un média turc. Fatih Terim, coach de Galatasaray, lui aurait proposé de devenir l'entraîneur adjoint des moins de 14 ans du club Stambouliot.
On espère que tout se passera bien pour lui. On termine par le tennis, Serena Williams qui reprend du service.
L'Américaine effectuera sa rentrée le 30 décembre lors du tournoi exhibition d'Abu Dhabi. Serena Williams, 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis le mois d'avril pour mettre au monde en septembre une petite fille. Elle a remporté pour la 7e fois l'Open d'Australie en janvier dernier, son 23e titre du Grand Chelem alors qu'elle était enceinte.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, plus de 3 mois après la décision du gouvernement de suspendre pour 6 mois l'importation des bières et boissons gazeuses en provenance des pays limitrophes, les conséquences se font sentir au sud de Kivu, notamment à Uvira. Les personnes handicapées qui font le trajet Uvira-Bujumbura se disent asphyxiées par cette mesure et dénoncent le deux poids deux mesures dans l'application de l'arrêté du ministre. Cet arrêté donc vise à protéger l'industrie locale de la bière. Reportage Ernest Muero.
Ces personnes vivant avec handicap vivent au quotidien du transport en vrac des bières Amstel ou Prémisse produites au Burundi, qui des particuliers profitant des allègements douaniers dont ils sont bénéficiaires au regard de leur vulnérabilité, leur confient pour les faire traverser en RDC au moyen de leur vélo pour handicapés. Claude Missaré, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Uvira, s'étonne que cette mesure frappe plus les petits commerçants. Selon ses sources, des grosses quantités de ces boissons entreraient frauduleusement en RDC via la plante de la Rosizi, ce qui achalande les marchés de Bukavu et Uvira.
Nous, on ne peut pas comprendre. Du moment où l'autorité a interdit l'entrée de ces boissons, quand vous allez dans la cité, c'est dans presque toutes les boîtes de nuit, tous les bistrots où on va cette boisson. On ne peut pas comprendre qu'on interdit seulement aux handicapés. On laisse des camions et la boisson dans la plaine de la Ruzizi entrer.
Célestin Malumbi Bitangacha, coordonnateur de l'association ADIFA, Action pour le développement intégral des personnes en situation de handicap, plaide pour l'allègement de la mesure en faveur des handicapés.
Le fait que l'État nous prive cette activité, vraiment, nous ne savons pas comment vivre. Nous sommes tellement pénalisés et qui nous cherchent aussi d'autres occupations qui peuvent nous aider quand même à vivre parce que physiquement nous ne sommes pas aptes à faire n'importe quel genre de travail. Et ici il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de centres sociaux. L'on se pose mille et une questions, comment est-ce qu'on va quand même supporter nos familles, la scolarité de nos enfants.
Mise au cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services au Congo Kinshasa pense que pour booster l'économie locale, il est primordial que même les personnes vivant avec handicap soit mise en contribution dans la protection et promotion de l'industrie locale.
C'est inquiétant que nous puissions avoir des produits en provenant de l'extérieur et qui coûtent moins cher. Ça insécurise l'investissement local. Autrement dit, nous sommes en train de tuer notre propre économie. Nous aussi, en tant que peuple, il y a des choses qu'on doit plus favoriser. Il n'y a pas que la bière qu'on peut importer. Il y a beaucoup de choses. Là où nous devons nous interroger, les mesures d'accompagnement. Il y a la fraude qui se développe et encore à grande échelle.
Patient Kasigo, artiste et habitant d'Uvira, pense que pour une bonne promotion de l'industrie locale, il faut que l'État diminue la taxation vis-à-vis de ces industries. À Uvira, près de 70 personnes vivant avec handicap vivent des commissions perçues des particuliers. Selon Céleste Malumbi, un seul vélo fait entrer en vrac entre 5 à 10 caisses de bière pour une rémunération variant entre 5 à 10 dollars américains pour la personne vivant avec handicap et son pousse-poussère. Selon ses répondants de l'Association des personnes vivant avec handicap, les services de la DGDA qu'en vivira et la Direction générale des douanes et accises ont saisi entre fin septembre et octobre 2017 une trentaine de vélos des handicapés transportant des boissons Amstel. Les vélos ont été retournés aux handicapés, mais la boisson a été acheminée à l'entrepôt de la DGDA qu'en vivira. La société civile locale s'interroge tout de même si cette mesure du gouvernement ne viole pas les principes de libre-échange des biens prônés par la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL dont la RDC est membre. D'Uvira au sud Kivu, Ernest Muero, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Niger, un peu plus de 6 mois après l'attaque du poste de police de Petel-Kolé qui a coûté la vie à 2 policiers et un civil, la psychose règne encore au sein de la population de ce village situé sur la frontière entre le Burkina et le Niger. C'est le constat du correspondant de VOA Afrique au Niger, Abdulrazak Idrissa, qui s'y est rendu récemment.
Les traces au sol du véhicule de la police calciné restent un des derniers signes visibles qui rappellent l'attaque du 27 mai 2017 sur ce poste de contrôle frontalier. Toutes les activités ont repris, mais beaucoup prennent des précautions, notamment chez les boutiquiers des abords du poste, à l'image de Ousseini Oumarou.
J'avais l'habitude de passer la nuit ici, mais depuis l'attaque, je ferme tous les jours à 17h. Le commerce ne marche pas comme avant.
Les habitudes des habitants du village de Petelkolé ont aussi beaucoup changé depuis cette attaque dans laquelle deux policiers et un civil ont trouvé la mort.
Nous avons peur. Tout s'arrête ici après la prière du soir.
Dès que la nuit tombe, chacun s'enferme dans sa maison. Même les enfants ne sortent pas pour jouer.
Je suis soudeur ici, mais depuis l'attaque, j'ai transporté toute ma famille à Terra. Je viens seulement la journée pour travailler.
L'attaque du poste de Petelkolé a permis à la population du village, même si elle n'était pas directement ciblée, d'être consciente de sa vulnérabilité et donc d'être plus vigilante, selon le chef du groupement Pelu du village, Hama Diberou.
Nous avons demandé à toute la population de nous alerter sur tout mouvement suspect, notamment s'il s'agit de motos qui sont interdites de circuler de nuit.
Le village de Petelkolé relève d'un des départements de la région de Tillabéri dans lequel le gouvernement nigérien a instauré depuis mars 2017 l'état d'urgence face aux attaques répétées des groupes terroristes qui agissent le long de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abdelrazak Idrissa, de retour de Petelkolé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Plusieurs dizaines de mendiants rapatriés de Cotonou pour le Niger, le Nigeria et le Bénin. L'opération conjointement menée par la préfecture et la mairie de Cotonou vise à débarrasser les feux tricolores et autres artères de la capitale béninoise de ces personnes sans grand moyen venues chercher de quoi joindre les deux bouts. Retour sur cette opération de rapatriement qui a eu lieu la semaine dernière dans ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La mendicité est un délit définitivement pris au sérieux au Bénin. La semaine dernière aura donné le signal fort. Les mendiants ne sont plus autorisés au Bénin. Au moins 128 personnes, dont des femmes et des bébés, majoritairement d'origine nigérienne, ont été rapatriées chez eux. Le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, ayant mené l'opération, explique que toutes les dispositions ont été prises pour que la dignité humaine soit respectée.
Le dispositif mis en place permet de faire un relais d'escorte policière à chaque fois qu'ils abordent une ville à Cotonou. Il n'y a jamais eu une opération de ce genre qui puisse se faire sans qu'il n'y ait un peu de mécontentement, même si le fond de l'opération n'est pas discutable, mais sur la forme, il peut y avoir des grincements dedans, ce qui est normal. Mais les autorités ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'une stigmatisation, il ne s'agit pas d'une discrimination, il s'agit simplement d'assainir nos villes.
Dénommée opération Zéro Mendiant à Cotonou, le rapatriement s'est fait après que des soins médicaux aient été donnés à ces mendiants. La directrice des affaires sociale des départements de l'Atlantique et du Littoral a personnellement supervisé l'opération.
Nous nous sommes préoccupés de l'état de santé des enfants. Il y en avait qui avaient des plaies, qui suppuraient. Il y en avait qui faisaient de la fièvre. Nous avons amené sur place un agent de santé, une infirmière notamment, qui les a pris en charge rapidement. En réalité, les gens doivent comprendre que si vous voulez rester dans un pays étranger, vous avez à rester dans le pays de façon normale.
Certains Béninois avaient peur que l'opération n'entraîne un incident diplomatique, mais il faut dire que tout s'est passé conjointement avec l'ambassade des pays concernés. D'ailleurs, sur le site du rapatriement, nous avons rencontré le chargé de mission de la représentation délégation diplomatique du Niger au Bénin venue s'assurer du bon déroulement de l'opération, comme il en témoigne ici.
Tout s'est bien passé, c'est le fruit de la bonne coopération entre le Niger et le Bénin.
La majorité des mendiants rapatriés ont été pris devant les mosquées. Le chef service accident et constat au niveau de la police nationale précise que cela s'explique par le fait que les accidents les plus mortels impliquant des mendiants ont eu lieu devant des mosquées.
Et lorsqu'ils sont en situation de mendicité, ils ne surveillent plus rien et ils empiètent sur la circulation normale et créent des accidents de route. Les trois cas de décès liés aux accidents dans lesquels sont impliqués les mendiants en tant que victimes, ces trois cas-là, tenez-vous tranquille, se sont produits non loin de la mosquée de Zongo.
Inscrit Cotonou au même niveau de standing que les grandes capitales africaines, c'est le but de cette opération qui veillera désormais à ce qu'aucun mendiant ne s'installe dans les feux tricolores, offrant ainsi une carte postale pas très reluisante de Cotonou. Il faut dire qu'avant d'être rapatrié, le gouvernement a offert une chance de reconversion professionnelle aux mendiants qui l'ont délaissé. De Cotonou, Jeanette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'édition a été mise en onde par Michel Joseph. À la console, il y avait Joubert Altaïb. La présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont annoncé l'octroi de 130 millions de dollars additionnels d'aide alimentaire d'urgence au Yémen à travers l'Agence des États-Unis pour l'aide internationale, l'USAID. Ce qui porte à près de 768 millions de dollars le montant total de l'aide humanitaire américaine au peuple yéménite depuis octobre 2016. La détérioration de la situation humanitaire au Yémen est, pour les États-Unis, un sujet de grave préoccupation. Plus de 22 millions de Yéménites ont désespérément besoin d'assistance et plus de 8 millions sont au bord de la famine, selon les Nations Unies. Le pays en est arrivé là à cause du conflit qui a éclaté en 2015 lorsque les rebelles Houthis, appuyés par l'Iran, se sont emparés de la capitale Sanaa, forçant à l'exil le gouvernement internationalement reconnu. À la demande du gouvernement yéménite, une coalition menée par l'Arabie Saoudite a entamé des raids aériens contre les positions des rebelles pour empêcher leur progression. Les produits de première nécessité ne parviennent pas au peuple yéménite en quantité suffisante. Les États-Unis ont, à plusieurs reprises, appelé à la coalition menée par l'Arabie Saoudite à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et des importations commerciales par tous les ports du Yémen, de même que l'aéroport de Sanaa. L'administrateur de l'USAID, Mark Green, a souligné qu'une petite quantité de biens que l'Arabie Saoudite a laissé entrer au Yémen jusqu'ici ne suffisent pas pour satisfaire d'immenses besoins. En plus d'exhorter l'Arabie Saoudite à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones nécessiteuses, la Maison-Blanche a appelé les milices houthis appuyées par l'Iran à autoriser la distribution de vivres, de médicaments et de combustibles dans les zones sous leur contrôle au lieu de détourner cette assistance pour soutenir leur campagne contre le peuple yéménite. Les États-Unis exhortent toutes les parties en conflit au Yémen à cesser immédiatement les hostilités, à redynamiser les pourparlers politiques et à mettre un terme aux souffrances du peuple yéménite. Ainsi que le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, l'a dit dans un communiqué de presse en début de mois, les États-Unis continuent de croire qu'il doit être mis fin au conflit dévastateur du Yémen et à la souffrance qu'il cause à travers des négociations politiques conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le succès des négociations politiques est nécessaire pour assurer que le Yémen s'épanouisse hors d'influence néfaste des milices appuyées par l'Iran qui opèrent hors des structures de l'État.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue.